dire, là, on est bien loin de la notion d'impression référentielle qui fait du personnage le bastion, le lieu de l'identification, de la lecture. En fait, si le déjeuner de Vermeil est un personnage au même titre que Eugène et que Rastignac est un troisième personnage, là, on sort de l'illusion référentielle, on arrive dans l'analyse de récit au sens propre, et c'est comme ça d'ailleurs que ça se passe en mythologie, etc. Tandis que, disons, une habitude romantique fait de lecture, qui est bien implantée, fait du personnage une sorte d'îlot de confiance, et je crois que le doute sur son statut, et même si c'est un thème du roman moderne, peut nous orienter. C'est un peu la même chose pour le genre. Vous savez que le genre, je fais là une transition, le genre est un mauvais objet pour les études littéraires. Barthes l'a dit, le vrai texte majuscule, doit se tirer des sociolectes. Se tirer, c'est en toutes lettres. Hein. Donc, le texte littéraire n'a pas de genre. Alors ça, c'est la théorie romantique du roman, et qui d'ailleurs est éponyme, puisque les romantiques ont fait leur théorie esthétique à partir du roman, considéré comme l'œuvre totale, celle qui échappait au genre, qui les mêlait tous dans une sorte de synthèse supérieure. C'est d'ailleurs tout à fait traditionnel. On a parlé du roman ce matin, en disant, ben, voyez, c'est très difficile de définir les genres, puisque, voyez, le roman. Et en effet, le curé, au chapitre 47 du Don Quichotte, dit, mais le roman, vous savez, il y a l'épique, le lyrique, le dramatique, il y a tout ça dedans. En fait, pour catégoriser une tragédie, on a beaucoup moins de mal. Souvent, c'est écrit dessus, mais bon, on a quand même des critères. Et pour tous les textes non littéraires, on n'hésite pas à faire la différence entre une résolution de conseil syndical. Disons, la classification pose beaucoup moins de problèmes. Et pourtant, en linguistique textuelle, en linguistique de corpus, le genre n'a toujours pas bonne presse. On considère qu'il faut faire émerger des types de textes, et on va chercher des critères pour les faire émerger, c'est-à-dire on va se priver systématiquement des indications de genre. C'est vrai que les indications de genre ne sont pas toujours livrées en même temps que le texte, c'est vrai aussi, par exemple, que sur l'ensemble des romans écrits en France entre 1700 et 1715, il y en a 250, aucun ne s'intitule roman. Il s'intitule, selon l'esthétique, Aventure 2 ou Histoire 2. Bon, mais au fond, peu importe. Je veux dire, le jeu avec les catégories génériques a toujours fait partie de la littérature, et même constituant. Donc, l'idée qui nous a conduit à travailler sur les genres et leur relation avec les variations morphosyntaxiques, c'était l'hypothèse montrée par ailleurs, par exemple par Brunet et Müller, dans une autre perspective avec des moyens différents, l'idée que le genre était quelque chose de déterminant et que les styles, c'est-à-dire les singularités d'auteur, ne se profilaient qu'à l'intérieur des genres. Même si il est vrai qu'une œuvre singulière peut rompre avec les genres, instituer un genre nouveau. La Divine Comédie a institué un genre, celle de l'épopée chrétienne en vulgaire. Bon, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Milton, il y a eu... Et justement, on ne retient que les œuvres de rupture. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des classes, ce sont des lignées. Mais au fond, peu importe, on retrouve ces lignées partout. Quand on a fait le projet Socrate, on s'est aperçu que, selon les ateliers de la SNCF, on pratiquait différemment dans les rapports d'activité. Bon, ben, parce que chaque atelier cultive sa singularité, dit on ne fait pas comme les autres, enfin, bon, et recopie ses propres rapports d'activité antérieurs. Bref, si on part du texte pour arriver au mot, si on prend une démarche qui est inverse, mais non opposée à la lexicométrie, mais simplement inverse. On va se trouver devant le problème de catégoriser les textes d'abord, c'est-à-dire d'aller du global vers le local, et de voir en quoi la différence de genre se traduit par des différences de vocabulaire, mais aussi de morphosyntaxe, c'est-à-dire jusque dans le détail. C'est une idée qui n'est pas du tout contradictoire avec les principes de l'analyse du discours, bien que l'analyse du discours à la française n'ait pas du tout insisté sur la question des genres, pour des raisons qui tenaient au fait que les positions de classe des différents interlocuteurs étaient déterminantes et que du moment qu'un sans-culotte ou un ci-devant employait indifféremment le pamphlet ou le discours, comme c'était la position de classe qui comptait, la différence entre le pamphlet et le discours n'était pas fondamentale. Mais on peut aller plus loin, bien entendu, et la variation des genres reste une grande énigme. Bon, d'une part, tout texte relève d'un genre, et ça, on a du mal à s'en rendre, enfin, on a du mal à faire accepter ça dans les domaines littéraires, où précisément, on estime que l'auteur répand sur tous ses écrits une sorte de grâce continue. Et donc, les éditions de la Pléiade, vous voyez, moins un auteur a écrit, plus les rééditions sont grandes, hein. On ajoute un tome à Mallarmé tous les 20 ans. Si on prend un tome de la Pléiade et qu'on le met dans une banque textuelle, on s'aperçoit que on s'interdit de lire des tas de choses. Parce que, évidemment, les écrits du type écrit intime vont neutraliser les autres. Enfin, disons, on mélange systématiquement le genre. Et donc, bon, par exemple, le mot femme chez Gracq est absent. Il est absent de l'œuvre, mais il est présent massivement dans la Penthésilée de Claïs, qui est une traduction, la traduction française de la Penthésilée de Claïs, qui se trouve, bien entendu, dans les œuvres complètes. Et donc, si vous prenez la moyenne des occurrences du mot femme, chez Gracq, ce mot reprend une fréquence tout à fait rassurante par rapport à l'ensemble. Là, il y a des biais qui sont créés par ce point de vue, disons, non générique, sur les œuvres. S'il n'y a pas de texte qui ne relève pas d'un genre, il n'y a pas non plus de genre suprême, parce que l'imaginaire classificatoire fait que chaque fois on cherche au-dessus, hein. Et il se peut très bien que. Alors c'est une question délicate, parce que on estime plus ou moins en linguistique qu'il y a un genre suprême, ou du moins qu'il y a un système général qui serait la langue générale. Et puis après des variations selon les discours. C'est peut-être vrai pour certains niveaux, par exemple la structure de la syllabe est la même dans différents discours, mais au niveau sémantique, c'est pas sûr du tout. Il n'est même pas sûr que vraiment le lexique, dans la mesure où c'est déjà un phénomène de discours dès lors qu'on combine deux morphèmes, c'est déjà du discours. Hein. Si l'inventaire des morphèmes appartient bien à la langue, il n'est pas sûr du tout que l'inventaire des mots appartienne à la langue. D'ailleurs, il y a des mots qui sont immédiatement reconnaissables, comme un mot balsacien, un mot ceci, cela. Enfin, souvent d'ailleurs des apax ou des créations, des mots qui vont devenir signalétiques. Alors, pour ne pas trop prendre de temps, je vais mettre en. D'interrogation sur y a-t-il autre chose que des discours? Étant entendu que les discours sont sémantiquement, c'est pas sûr, hein. Étant entendu que les discours sont tout simplement des types de pratiques sociales bien déterminées et souvent, je veux dire, au fond, d'où vient la métaphore? Je sais pas, Chirac transforme un essai. Elle vient tout simplement que le discours politique et le discours sportif sont dans notre univers séparés. Bon, en Grèce antique, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas métaphorique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la notion de métaphore repose précisément sur cette séparation entre discours. Il y a très peu de travaux sur les discours et les domaines sémantiques correspondants, comme il y en a, 300, etc. Les indicateurs lexicographiques en donnent une vague idée, mais enfin, il y a énormément à faire là-dessus. L'idée, donc, serait celle-ci. Il y a des types de pratiques différentes, avec des spécialisations, y compris professionnelles. À l'intérieur de ces types de pratiques, il y a des champs génériques, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur de ces pratiques générales, il y a des champs génériques qui sont des types de pratiques, théâtre, récit, poésie. Par exemple, pour les récits, il n'est pas impossible que les grandes différences que l'on voit entre le roman policier et le roman ne soient pas liées à des modes de production, de lecture et d'interprétation qui sont de plus en plus séparés. Même s'il y a un gros feedback du policier sur le roman dit sérieux, par exemple aux éditions de Minuit, etc. Chez Modiano. Bon. Mais cette question de. Ce sont évidemment des formations historiques. Hein. Il s'agit pas de la comédie en soi, hein, bien entendu. Donc tout ça est lié à des moments historiques. Et d'ailleurs, ces pratiques sont elles-mêmes historiquement déterminées. Alors, il y a des etc. à tous les étages de cette classification, étant entendu qu'un sous-genre, on peut en créer tant qu'on veut. Hein. J'avais un voisin qui disait, moi je lis que les romans en île et pas les romans en jeu. Bon, c'était un critère de sous-genre tout à fait honorable, comme le roman par lettres. Et simplement, ce critère-là n'est pas suffisamment fort pour arriver à autonomiser le genre, mais il peut être le germe d'un genre qui apparaîtra. Il se peut que dans 50 ans, les romans en île et les romans en jeu soient des genres différents. Bref, l'existence de sous-genres n'infirme pas du tout l'existence des genres, d'autant plus que dans des genres, justement, comme le roman, on se plaît à mélanger, enfin, je veux dire, à mettre des éléments, des images d'autres genres. Vous voyez, par exemple, la lettre. Dans le roman n'est pas la même chose que la lettre dans la correspondance. Et on en tire argument dans les théories des séquences pour dire il est impossible, il y a une hétérogénéité de tout texte, etc., etc. Vous avez tous lu ça chez Adam. C'est vrai que les textes sont hétérogènes, mais c'est précisément ça, c'est un thème romantique qui vient de la théorie romantique du roman, mais ça ne veut pas dire du tout que la lettre dans le roman soit la même chose que la lettre dans la correspondance. Donc c'est des images, enfin des images littéraires. Et c'est bien entendu qu'au début de l'histoire amoureuse des Gaules, Bussy Rabutin est en train de créer le roman moderne à la française en rajoutant des portraits, des lettres, etc. C'est-à-dire en incluant, et la sauce a pris, enfin disons ça a pris, puisque c'est devenu les ingrédients du roman classique. En linguistique de corpus, d'ailleurs, même sur des textes techniques ou scientifiques, il est bien évident que la description fine des genres, et c'est le même problème s'est posé à moi en indexation des images et dans d'autres domaines qui sont pas non même linguistiques, que bien définir la structure du genre permet de faire de grosses économies de traitement, c'est-à-dire de savoir où on va chercher, si c'est dans le paragraphe 1 ou dans le paragraphe 2. Par exemple, en résumé d'observation médicale, le premier paragraphe a une sémantique ouverte, tout simplement parce que c'est un fossile de la médecine hippocratique. Et donc, alors qu'après, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire le cancer de la thyroïde. Donc, ce n'est pas la peine de représenter tout ce qu'on peut dire du malade dans son ensemble si on s'intéresse que à la typologie des cancers. Inversement, si on s'intéresse au malade, on peut prendre que le premier paragraphe, parce qu'après, bref. Alors, là-dessus, il y a un débat en linguistique de corpus. Il y a des gens, par exemple, comme Haber et ses collègues, comme Bieber aussi, qui disent, bon, il faut neutraliser les genres, et puis, je cite, nous visons à éliminer le contexte situationnel et historique des textes. L'idée étant celle-ci, on va faire émerger des types à partir d'une catégorisation morphosyntaxique, et ces types ne sont pas des genres. Donc le défi est lancé, est-ce qu'on va arriver à faire émerger des types stables qui signifient quelque chose, qui soient interprétables et qui ne soient pas des genres? Le débat est complètement ouvert et il n'y a aucune animosité dans ce débat. Enfin, je veux dire, c'est un vrai débat. La question a été formulée en termes de démarche. Est-ce qu'il s'agit d'induction, dans le cas de Bieber, puis Haber, ou bien dans le cas d'un codage préalable des genres, est-ce qu'il s'agit de déduction? Je ne crois pas. Il s'agit plutôt d'une conception différente des rapports entre le global et le local, ce qui ne correspond pas à l'opposition déduction-induction. Tout simplement parce que vous savez qu'en informatique, la conception ordinaire du texte en fait simplement une chaîne de caractères. Or, le fait que ce soit un roman n'appartient pas à la chaîne de caractères. Du moins, on ne code pas le péritexte, jamais. Et pourtant, c'est quelque chose d'intéressant, même si ce roman n'en est pas un. Parce que, évidemment, Solaire s'appelle Paradis Roman, Gide, enfin, je veux dire, bon, Solaire, elle prend la succession de Gide de ce point de vue-là, hein. Bref, si d'un point de vue philologique, le texte n'est pas une chaîne de caractères, être une chaîne de caractères est simplement un élément de ce qui peut définir le texte, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres, certes important, mais il est évident que bon, la date, l'auteur, enfin disons les questions d'attribution et de codification sont tout aussi importantes dans la mesure où elles déterminent le mode génétique du texte, son mode mimétique et son mode herméneutique. Et donc, si on enlève ces trois choses, on se trouve devant des objets qu'on a rendus ininterprétables. J'en veux pour preuve, par exemple, que des banques comme le British National Corpus ne contiennent aucun texte entier, ce qui est philologiquement scandaleux. Et Haber, pardon, pas Haber, mais Bieber a travaillé uniquement sur des textes ou sur des sections de textes. On prend, je sais pas, par exemple, 1500 mots au début, 1500 mots au milieu, 1500 mots à la fin. Comme ça, on est sûr que la textualité n'interviendra pas. Ça n'enlève rien à l'intérêt des résultats, puisque ça... Mais est-ce qu'on a à se priver de ces données? Imaginons ce que serait l'archéologie si elle étudiait le tesson en tant que tel. Nous sommes partis de l'hypothèse que les genres sont un niveau privilégié d'analyse et de regroupement des textes. Que l'unité minimale était le texte et l'unité de travail était le corpus, le mot étant l'unité élémentaire à ne pas confondre avec l'unité minimale. C'est-à-dire qu'on pense que de ce point de vue-là, le texte est l'objet empirique de la linguistique, tout simplement, et non pas une sorte d'extension littéraire. Bon. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette typologie, tout en disant que, selon un principe qu'on pourrait appeler le principe d'architecte, tout texte plongé dans un corpus en reçoit une pression sémantique complètement ineffable. Et donc, il faut trouver le bon corpus. C'est-à-dire que si vous lisez un texte à contre-genre, vous n'arriverez pas à le lire. C'est le cas de Borges lisant l'Imitation de Jésus-Christ comme si elle avait été écrite par Céline. Même Eco n'est pas arrivé à aller plus loin que la première phrase. Borges donne l'autre exemple, celui du Quichotte. C'était dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom. Ah bon, c'est lui le coupable. Il ne veut pas s'en rappeler. Alors, bref, on a pris une attitude, disons, raciste de ce côté-là. Et on s'est dit qu'on allait coder les genres. Donc, on a pris un corpus. On n'a pas accès au corpus. CNRS, puisque nous sommes chercheurs CNRS, donc on est allé prendre un corpus dans une entreprise privée qui était très gentille avec nous. Et ce corpus est par bonheur plus grand que les corpus, et surtout il est étiqueté par 257 étiquettes morphosyntaxiques. Et on a laissé tomber les étiquettes sémantiques parce qu'il y en a 700 et elles sont mal faites. Mais on a demandé qu'ils enlèvent certaines étiquettes, qu'ils en rajoutent d'autres, et très gentiment, ils l'ont fait. Alors, il faut bien voir qu'un corpus est toujours fait pour quelque chose. Cette société qui s'appelle Synapse a fait un correcteur et analyse, enfin, a créé son corpus pour faire un analyseur du français, qui est d'ailleurs. Qui arrivait en tête à peu près dans tous les tests, c'est Cordial Université. Bon, ça, c'est une version, disons, particulière de Cordial Université, qui sera peut-être commercialisée. Alors, entendons bien que c'est un corpus qui n'a pas été fait pour être représentatif, véritablement, d'une histoire du français, dont la moitié des textes, ce sont de la fin du XXe siècle. Et il y a énormément de romans policiers. Parce qu'on considérait que c'était plus près des usages pour un correcteur orthographique et plus près du parler, par exemple, enfin, c'est moins littéraire que le roman dit sérieux. Alors, je passe sur ces questions de structure du corpus, enfin, disons, d'histoire de la constitution du corpus, pour dire que il se compose, du moins, on a retenu dans ce corpus d'ouvrages les essais, les textes scientifiques, les textes juridiques et les textes littéraires. ça fait quatre discours différents, inégaux entre eux, parce que dans les essais, c'est un genre, mais c'est un genre trans-discours d'une certaine manière, parce que vous avez des essais historiques, politiques, et donc on s'est méfié de ce discours essai, simplement, il nous a servi à contraster des choses. Et puis, à l'intérieur du... On s'est focalisé sur le littéraire, et notamment sur ces trois champs génériques, poésie, genre narratif et théâtre. Et à l'intérieur des genres narratifs... On s'est focalisé à l'intérieur des genres narratifs, parce que c'était eux les mieux représentés, pour essayer de distinguer les contes, les mémoires, les nouvelles, le roman policier, le roman sérieux et le récit de voyage. Alors, comme dans un roman policier, du moins un roman feuilleton, je vais m'arrêter en attendant une prochaine livraison qui va être d'ailleurs très immédiatement celle de Denise Madrieux. Avant, je vais dire un mot quand même de ces étiquettes morphosyntaxiques. Il y a un total de 187 millions d'étiquettes. À comparer avec les 410 000 étiquettes sur lesquelles travaille Biber, étiquettes qui ont été faites à la main et donc qui sont meilleures chez Biber et plus plus syntaxiques au sens où Biber cherche à définir la complexité de la phrase, c'est-à-dire et aucun analyseur ne permet d'analyser une disons des enchâssements récursifs ou des choses comme ça. Biber, lui, dans la mesure où il la note à la main, peut se permettre ça. Donc nous avons travaillé essentiellement en dehors des variables, disons, bibliographiques, titre de l'ouvrage, etc. On a reclassé évidemment tous les ouvrages qui n'étaient pas classés sur des variables, disons, de type morphosyntaxique, disons, grammaire scolaire, c'est-à-dire la ponctuation, les temps, les personnes, choses comme ça. Il y a peu d'indices à part la ponctuation et, disons, des formes de subordination sur la question de la complexité de la période, bien que dans l'analyse factorielle, on puisse récupérer, évidemment, regrouper ensemble des gens comme Simon, Proust, Bourdieu, qui se singularisent par la complexité des périodes. C'est d'ailleurs peut-être ce qui les rapproche le plus. Alors, je ne vais pas vous énumérer ces 251 variables. Hein. D'ailleurs, on est en train d'en faire une... De les revoir. Je vais passer la parole à Denise Madrieux, qui a été la cheville plus qu'ouvrière de ce travail collectif. Bon, c'est un peu notre baptême de l'air, c'est la première fois qu'on expose ça en duo. Et bon, je reprendrai peut-être vers la fin la parole.
Donc là, vous avez pu voir la quantité des genres, le poids relatif de chacun des genres dans ce corpus, où très visiblement le roman écrase le reste. Mais on verra que dans l'analyse contrastive, justement, les autres, les petits, ont un rôle très... très puissant. Alors pour ce qui est des périodes représentées, vous voyez que le 20e domine aussi très fortement, puisqu'il y a 50% de la deuxième moitié du 20e, et que par contre, 17e et 18e sont très pauvres. Alors pour ce qui est des variables, elles ont été obtenues à partir des sorties de l'analyseur cordial qui se présente comme ça. Je vais passer vite. Hein. Ici, vous avez les étiquettes morphosyntaxiques, le lemme, le mot, le numéro du mot dans la phrase, le numéro du paragraphe, le numéro de la phrase et le numéro de syntagme dans lequel se trouve le mot, la fonction syntaxique du mot dans la proposition, le mot pivot. Dans la proposition, ici, est-ce qu'il s'agit d'une proposition principale ou subordonnée? Et c'est donc à partir de ces sorties de l'analyseur cordial que les statistiques ont été moulinées par Dominique Laurent de la société Synapse et qui nous a fourni donc les statistiques sur 250 variables morphosyntaxiques. Je vous les passe très très rapidement pour que vous donniez une idée de en quoi elles consistent. Je passe vite. Hein. Parce qu'il y en a 250. Donc il y a tous les types de déterminants, les types de pronoms, les types d'adjectifs, des types de noms communs, des types de noms propres, avec certains traits sémantiques liés au temps, au lieu, les types de noms propres. Les types d'articles, les types de pronoms, les personnes des pronoms personnels. Les types d'adverbes, les temps des verbes, les personnes des verbes, et puis des traits sémantiques qui font partie du lexique de synapse, par lesquels il étiquette des propriétés, des substantifs, des noms, etc. Donc, les types de construction des verbes, est-ce qu'ils ont un COD obligatoire, etc. Donc, voilà. Donc, la première phase de traitement que nous avons réalisée de façon, disons, purement exploratoire, c'était d'essayer de répondre à la question, est-ce que sur des variables aussi morphosyntaxiques, c'est-à-dire très locales, on arrive quand même à repérer des différences significatives entre champs génériques et entre genres. Et la première démarche a été d'essayer de voir sur ces 250 variables traitées de façon complètement indifférenciée, à plat, sans regroupement sémantique, sans hypothèse préalable, de savoir si, en prenant l'ensemble de ces variables, on pouvait trouver des différences significatives et des distances entre des distances différentes, entre des choses que nous avions catégorisées a priori comme appartenant à un champ générique homogène et des textes qui appartiendraient à des discours ou des champs génériques différents. Et donc, la démarche statistique bête a été de générer des tables où, par test statistique, on essayait de caractériser chacun des champs génériques. Le J, c'est juridique, R, c'est récit, H, c'est scientifique, P, c'est poésie, T, c'est théâtre, etc. Donc, on a fait des comparaisons à plat sur chacune des variables, sur les 250 variables, sur des champs génériques différents. Et on a pu ainsi, à partir des tests statistiques qui donnaient des différences significatives, établir des distances qui sont effectivement différentes suivant que on traite de choses qui appartiennent à un champ générique unique tel que les textes narratifs ou bien entre champs génériques différents quand on compare, par exemple, le juridique, le scientifique et le littéraire. Ce tableau montre que, en fait, vous avez beaucoup moins de couples quand on compare les genres entre eux par couple, on a beaucoup moins de variables qui différencient les textes à l'intérieur d'un champ générique que entre champs génériques. Les différences sont beaucoup plus nombreuses entre champs génériques que à l'intérieur des textes narratifs. Bon, alors ces tableaux permettent aussi de voir ce qui, par exemple, de repérer toutes les variables pour lesquelles la poésie apparaît en premier, beaucoup plus forte que les autres types de discours. Je passe parce qu'il faudrait vraiment entrer dans une analyse beaucoup plus précise. Et je vais passer tout de suite à à ce qui différencie les genres entre eux. Alors, ici, il s'agit en fait d'une étude qui différencie sur ces 250 variables le discours juridique des autres discours, dans la mesure où dans les différents types d'analyses qu'on a faites, que ce soit l'analyse univariée ou de l'analyse en composante principale, le discours juridique était extrêmement distant de tous les autres et se différenciait de façon massive. Et là apparaissent donc les variables pour lesquelles la valeur du test de différence significative sont les plus fortes. Et on s'aperçoit que, en fait, les variables qui différencient très fortement le juridique concernent essentiellement les variables qui sont liées au déficit d'oral représenté, c'est-à-dire tout ce qui est expressivité affective, les personnes, des pronoms personnels, des pronoms possessifs, les temps des verbes, puisque le passé simple est fortement absent, les pronoms personnels à la deuxième personne, pronoms possessifs à la deuxième personne. Par contre, les articles définis s'avèrent plus présents que dans les autres discours. Les adjectifs antéposés sont plus faibles. Ceci permet déjà de commencer à formuler des hypothèses plus précises sur ce qui peut, au niveau morphosyntaxique, ce qui pourrait caractériser des genres différents. Alors, ça, c'est un tableau plus récapitulatif de ce qui caractérise le juridique, plus forte abstraction, puisqu'il y avait des traits abstraits concrets dans le lexique, plus de verbes subjonctifs liés au discours normatif, de verbes conditionnels, plus d'articles définis, plus de discours impersonnels, plus de noms, le nominal est beaucoup plus important que dans les autres discours, davantage de propositions subordonnées. Donc ça, c'est une première approche qui permet d'explorer un petit peu les différences et de façon à passer ensuite à une autre étape qui sera en fait de non plus travailler sur le corpus de façon globale en essayant de voir si on retrouve des paquets de choses qui correspondent à nos étiquettes a priori, mais qui permettront ensuite de redéfinir des sous-corpus. Par exemple, il est fort probable que dans la période qui vient, on va travailler sur un corpus uniquement roman pour essayer de voir comment se différencient les différents types de romans et à l'aide de toujours des mêmes variables, mais en retravaillant les variables avec des hypothèses.
Je fais un petit post-it, hein. RS, ça signifie roman sérieux, c'est une catégorie qu'on a inventée.
C'est la catégorie fourre-tout qu'on voudrait essayer d'explorer. Voilà. Bon, alors le roman policier, le roman sérieux, en fait, se différencient très, 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 très fortement. Ce qui faisait émettre à François l'hypothèse qu'en fait le roman policier était un genre à part et qu'on ne pouvait pas le mettre qu'on ne pouvait pas le mettre dans la catégorie roman, que ça correspondait à quelque chose qui fonctionne avec un système qui lui est bien propre. Là, en particulier, ce qui apparaît, c'est que la phrase est nettement plus courte, le système des pronoms des personnes est différent, le tu est beaucoup plus présent, le passé composé est beaucoup plus important, par contre l'imparfait, le conditionnel et le futur sont faibles, ce qui veut dire que le récit ne fonctionne pas du tout suivant le même mode que dans le récit classique. Bon, la ponctuation aussi se différencie fortement. Donc ça, c'était une première étude exploratoire pour essayer de voir si, dans une approche univariée, on pouvait, sur certaines variables, vérifier que les gens se différenciaient bien. Ensuite, on a fait, grâce à l'aide attentive de Valérie Baudouin, une analyse en composantes principales sur l'ensemble du corpus et puis sur un sous-ensemble corpus et essai. Et l'analyse en composantes principales donne les résultats suivants pour le premier facteur, un facteur qui rend compte de, je crois, 40% de... 40% de la variance. Le premier facteur, apparemment, concerne massivement tout ce qui est variable lié à l'oral représenté, puisqu'on a l'importance des verbes, l'importance des pronoms. L'importance des pronoms personnels à la première personne, et par contre, la troisième personne est sous-représentée. Oui, la première personne est très importante. Les points d'interrogation, les points d'exclamation, l'importance des pronoms par proposition, les mots très courants, les articles indéfinis, et le caractère bref et ramassé de la phrase. Donc ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur qui concerne essentiellement l'abstraction, qui est corrélée avec la forte présence de propositions subordonnées, et corrélé négativement avec le temps imparfait des verbes. Bon, je ne sais pas si je vous donne tous les autres facteurs, ça ne paraît pas...
Non.
Le troisième facteur concerne la complexité du paragraphe et de la phrase, corrélé avec, évidemment, le pourcentage des mots-outils. Le pourcentage des mots-outils était assez variable suivant les genres, même si l'empan de variation est faible, il est quand même très, très significatif. La complexité des groupes nominaux, la complexité de la phrase, la présence de compléments enchaînés, etc., qui font que sur le pôle positif, on a Proust, Sade, Saint-Simon et Bourdieu ensemble, et sur le pôle négatif, on a le juridique, la poésie et le roman policier.
Alors, on s'est gardé de créer la catégorie de personnages compliqués et autoritaires pour réunir ces quatre auteurs.
Bon, alors ensuite, on s'est amusé à faire la classification automatique ascendante sur l'ensemble des œuvres et sans travailler sur le regroupement des variables. Et on a demandé donc à la machine de nous faire des classes. Évidemment, des classes à partir des 250 variables sur les 2600 ouvrages. Alors, les premières classes qui apparaissent dans le bas de la classification, ce sont d'abord les doublons, c'est-à-dire une œuvre identique qui apparaît sous deux titres différents par erreur, qui ont été tout à fait bien reconnus. Donc, ça marche bien. Ensuite, on a des choses qui concernent souvent des œuvres du même auteur et du même genre. Donc, ça, c'est les numéros des œuvres, des classes. Et donc, vous voyez que ce qui est regroupé dans le bas de la hiérarchie, c'est souvent des choses qui sont du même auteur et du même genre. Donc, vous avez Albertine et la fugitive qui sont classées ensemble. Dans le milieu de la hiérarchie, on a des classes qui sont aussi homogènes au point de vue genre, puisqu'on a ce genre de truc. On a Dantec et Fajardi, la biche, la biche, la biche. Et donc, l'arborescence se présente grosso modo comme ça, sur l'ensemble du corpus. On a un groupe qui se différencie d'abord de tous les autres, qui est le groupe juridique, composé à 98% de textes juridiques. Ensuite, on a deux groupes qui sont la poésie et le théâtre, constitués chacun à 84% de poésie et de théâtre. Ensuite, on a qui s'oppose à tout le reste. Et puis, donc, on a un premier groupe qui correspond à un mélange avec dominante de textes narratifs, de textes narratifs du 18e et de la première moitié du 19e, et à 18% d'essais. Un deuxième groupe qui comporte à la fois un groupe constitué essentiellement d'essais et deux petits groupes qui concernent à la fois, qui concernent essentiellement des textes narratifs composés pour Jassis de 97% de deuxième moitié du 20e et première moitié du 20e, et pour l'autre, les périodes sont inversées. Donc, le résultat est intéressant dans la mesure où il montre que sur des catégories morphosyntaxiques assez fines, on s'aperçoit que les genres fonctionnent de façon quand même très, très différenciée, mais là, apparemment, il y a quelque chose qui se passe qui ferait dire que ce que nous avons désigné comme le genre texte narratif est effectivement quelque chose qui est assez hétérogène, pour lequel il y a des genres narratifs qui se rapprochent des essais, et apparemment c'est des formes de récits qui correspondent plus au 18e et à la première moitié du 19e, et que par contre, ici, nous avons des choses qui sont très, très liées essentiellement aux romans policiers et romans sérieux modernes.
L'idée étant qu'il y a vraisemblablement des différences d'esthétique, et pas seulement des différences esthétiques, des différences historiques, derrière.
Alors, si on refait la même classification hiérarchique ascendante sur le corpus, sur le sous-corpus genre narratif plus essai, on a quand même une séparation assez nette de tout ce qui est essai et de tout ce qui est récit narratif, avec avec un sous-groupe qui correspond au roman policier. Bon, évidemment, on peut construire ce genre de choses à partir de nos données. C'est des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais qui demandent quand même à être affinées, puisque, en fait, sur le problème de la valeur sémantique des temps, il est évident que le futur, le présent, n'ont absolument pas la même valeur suivant suivant les textes et suivant les parties du texte. Et donc, la prochaine étape vers laquelle il faudrait quand même qu'on se dirige, c'est d'arriver à travailler sur des textes balisés qui nous permettraient de différencier les parties textuelles et en particulier arriver à marquer de façon automatique ce qui a trait aux parties dialoguées, non dialoguées, pour pouvoir obtenir des statistiques qui rentreraient davantage dans la structure textuelle et qui nous permettraient d'explorer de façon sémantique en faisant de l'étiquetage à la fois de l'étiquetage qui donne la structure logique du texte et en même temps conserve l'ensemble des informations de l'analyseur syntaxique en liant les positions de chaque unité lexicale dans le texte avec son appartenance aux parties du texte et ce qui permettrait d'élaborer petit à petit un étiquetage sémantique qui serait lié à la composante tactique du texte qui, pour l'instant, n'est pas explorable par ce genre de démarche qui traite l'œuvre dans sa globalité. Je repasse la parole à François Rastin.
Oui, alors je trouve assez frappant que dans les classes, les 60 classes formées en bas de la classification, on a vu par exemple des pères comme, je ne sais pas moi, Frison Roche, La Grande Crevasse, Premier de Cordée. Imaginez quel va être l'expert littéraire qui, disons, à l'aveugle, va pouvoir dire immédiatement, voilà, ces deux extraits appartiennent à Frison Roche ou. Bon, la seule erreur, parce qu'il y a une erreur dans ces 50, c'est les lettres de Sévigné et les liaisons dangereuses, comme par hasard. Mais sinon, non seulement il y a un très petit nombre de désaccords sur le champ générique, mais il y a pour l'essentiel, les œuvres appartiennent non seulement au même auteur, mais à la même période de l'auteur. Et là, il y a une. On ne sait pas véritablement pourquoi. C'est-à-dire, on ne peut pas reconstituer. Mais malgré tout, il y a une capacité discriminative extraordinaire. D'autant plus que le système n'avait accès qu'à des étiquettes morphosyntaxiques. C'est-à-dire qu'il peut vous donner là deux parties de Frison Roche, comme si Frison Roche était un Proust bis, vous voyez, quelqu'un de totalement, totalement. Identifiable à la première séquence. Bon, en revanche, c'est vrai, et comme on l'a souligné, que l'analyse multivariée qui a confirmé les distinctions entre discours et entre champs génériques, mais il reste le problème de la classification multiple des genres narratifs. Et là, je voudrais donc aller non pas en deçà, mais peut-être au-delà des genres, sur l'incidence des techniques esthétiques, techniques narratives, et peut-être sur la question de la représentation de l'oral, puisqu'on a vu que le premier facteur était lié à la représentation de l'oral, qui captait 40% de la variance. Alors, il ne s'agit pas de l'oral, puisqu'il n'y a aucun texte oral dans cette affaire, il s'agit du dialogue et peut-être des techniques, disons, de la dialogique, c'est-à-dire des techniques d'interlocution représentée. Il ne s'agit pas du tout d'énonciation. Ça, c'est un autre problème, qui est d'ailleurs un problème essentiellement philosophique, mais là, d'énonciation représentée. Ce facteur sépare évidemment très clairement le théâtre de la poésie et du roman. Au sein même du théâtre, il gouverne l'opposition entre les comédies et les tragédies, tragédies classiques, hein, où vous savez qu'il y a une alternance de dialogue et de récit, puisque dans la tragédie classique française, on ne raconte pas, enfin, on ne peut pas présenter certaines choses sur scène, et donc on les raconte. Tout ça a été d'ailleurs pour la tragédie très bien montré par Valérie Baudouin dans sa thèse, quand elle arrive même à corréler les différences sémantiques entre dialogue et récit au sein de la tragédie classique, des classes qu'elle a intitulées Amour et mort et qui représentent, disons, des constellations lexicales. Avec de la morphologie, c'est-à-dire dans l'amour, on a des verbes modaux, des interjections, des pronoms de première et deuxième personne. Et puis, quand on parle de la mort, c'est des pronoms de troisième personne, c'est des noms propres. Ça va même plus loin, puisque, en réalité, ces deux régimes narratifs sont corrélés à des régimes métriques, c'est-à-dire on a des rythmes irréguliers et des rythmes iambiques quand il s'agit. Du dialogue, d'autant plus qu'il y a souvent des coupures, c'est-à-dire le même vers est dispersé entre plusieurs interlocuteurs, et des rythmes réguliers et anapestiques, c'est-à-dire il y a moins d'accent et c'est plus noble quand il s'agit de la mort. Bon, ça, elle en parlera peut-être, du moins j'espère, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais hors de notre corpus et dans un tout à fait autre discours, c'est-à-dire là le discours religieux, c'est David Milan qui a travaillé sur les évangiles, en utilisant d'ailleurs le même logiciel que nous. Il a identifié, donc essentiellement en travaillant sur le texte grec de Marc, il a identifié trois genres, l'épître, l'évangile, l'apocalypse. Bon, très bien, mais dans l'évangile, il trouve des parties, et ces parties sont en fait des sous-genres, et ces sous-genres sont quoi? Ils sont différenciés en fonction de l'interlocution représentée, selon qu'on a le récit du miracle, l'apophtegme, les logias, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve dans d'autres discours le même problème du caractère discriminant de l'énonciation représentée. Je ne parle toujours pas de l'énonciation réelle. Alors, il se pourrait. Hein, il se pourrait que soit cette question de l'énonciation représentée soit quelque chose d'une portée anthropologique générale, soit que ce soit très fort dans une tradition occidentale qui est liée à la tradition du livre, à la question du témoignage, etc. C'est une question complètement ouverte. Hein. Alors, en fait, on manque de catégories pour concevoir et dénommer les regroupements de variables. Ce matin, Brunet disait, bon, il y a là les textes qui parlent du réel, c'est-à-dire les textes techniques et la poésie. Au fond, il a raison, parce qu'il disait, sinon, il y a les textes de fiction, il y a les romans et le théâtre. Mais si on regarde en effet, la poésie et les textes techniques ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ont un régime thétique et non pas hypothétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrogation en poésie, on affirme. Il y a de la détermination en poésie, bizarrement. Moi, avant de voir les stats, j'avais une idée poétique de la poésie. Mais en fait, la poésie est du réalisme transcendant, du moins dans notre tradition. Et donc, fatalement, elle retrouve les techniques du réalisme empirique. Du moins, elle en partage quelque chose, tout en ayant évidemment tout à fait d'autres mailles à partir, bien sûr. Alors que le roman, surtout roman psychologique, lui, il a ses points de suspension, enfin, je veux dire, il a une méta réflexivité qui ne se traduit pas dans la morphosyntaxe. Donc le problème que nous avons, c'est évidemment de relier ces variations morphosyntaxiques massives à des techniques esthétiques et à des catégories comme thétique hypothétique, réalisme empirique, réalisme transcendant, objectivité et subjectivité. C'est là-dessus que nous commençons à travailler de façon plus systématique. Par exemple, dans un régime subjectif, on aura une représentation de l'oral et du familier. Dans un régime objectif, on aura de l'écrit, du savant, mais aussi des adjectifs postposés, des attributs, alors qu'on aura des épithètes et surtout des antéposés dans les régimes subjectifs. Bon, c'est vrai aussi qu'en français, souvent l'adjectif antéposé a une valeur subjective. Bon, tout ça, ça fait partie aussi du système de langue, mais justement, il est réutilisé. Comme ça. Ça vaut sur les modalités, bien entendu, sur la ponctuation, sur la personne, sur les catégories morphologiques. Le tétique, l'objectif est massivement du côté du substantif, tandis qu'on retrouve l'hypothétique et du côté du verbe et de l'adverbe. On a de même type de différence du point de vue de la prosodie où le subjectif est du côté du brisé, du mot court, alors que l'objectif est du côté du régulier, du mot long et de la proposition longue. La dernière question que j'aborderai, c'était Benveniste avait-il raison? Benveniste, enfin, ce fameux article illustre où il oppose l'usage des historiens, d'ailleurs tout simplement l'histoire grecque de Glotz, et le Gambara de Balzac, pour dire il y a deux régimes d'énonciation, l'histoire et le discours, m'a toujours scandalisé par son caractère sommaire et abrupt. Malgré tout, Benveniste avait peut-être raison au sens où il a levé un lièvre qui est en fait un lièvre tout à fait platonicien. Le critère de Benveniste, c'est qui parle. Bon, c'est exactement le critère de Platon. Et d'ailleurs, toute la théorie des genres occidentale est fondée là-dessus, jusqu'à Hegel et plus loin, jusqu'à Benveniste. Et d'ailleurs, on peut montrer les choses, disons, dans le détail, y compris dans les années 40, comment la tripartition diomédienne entre lyrique, narratif, etc., épique, s'est transposée en régime d'énonciation. Simplement, Benveniste retourne à Platon, c'est-à-dire, il dit, il n'y a plus que deux genres. Bon, mais ça, je veux dire, les redécouvertes sont toujours applaudies, d'autant plus qu'elles se présentent comme des nouveautés, hein, bien entendu. Alors, il est bien entendu faux que dans Gambara de Balzac, quelqu'un parle, parce qu'il confond le narrateur et Balzac. Mais enfin, c'est pas grave, ce n'était qu'un linguiste. Mais, bref, le succès de cette distinction fait problème, hein. C'est-à-dire que soit c'est vraiment une distinction qui est fondamentale dans notre histoire culturelle, soit, comme je le disais, elle a un aspect anthropologique, et peut-être qu'il y a deux régimes de mimésis, tout simplement parce que nous sommes dans deux mondes. Il y a un monde de l'ici et maintenant, celui de la pragmatique, l'interaction, le je-tu, le dialogue, etc. Et puis, un monde distal qui est configuré par les sciences, les arts et les religions, c'est-à-dire où on parle de ce qui n'est pas là, ce qui est tout à fait caractéristique des langages humains, c'est leur possibilité de parler de ce qui n'est pas là. Et alors, on le configure comme on peut, ce qui n'est pas là, mais ce qui n'est pas là, évidemment, intervient sur ce qui se passe dans cette zone que j'appelle proximale, où il y a l'interlocution, disons, les pragmata, les affaires humaines. Bon, cette question-là est évidemment à réfléchir, mais le fait que, par exemple, les techniques du discours scientifique et les techniques de la poésie même, soient, pour une part commune, du moins morphosyntaxiquement commune, ne sont pas inintéressantes. Et d'ailleurs, on sait que la science a toujours voulu rivaliser avec le mythe pour le supplanter, hein. Disons, ils ont toujours été sur le même, ils ont essayé d'occuper le même terrain, du moins dans la version scientiste de la science, qui n'est pas d'ailleurs partagée par la plupart des savants. Alors, on se trouve évidemment devant une multiplicité de faits à interpréter en se disant de toute façon que certaines choses, nous n'arriverons jamais à les interpréter, certaines de ces données, mais malgré tout, que comme toujours quand il s'agit de corrélations statistiques, de co-occurrences statistiques, certaines co-occurrences peuvent être requalifiées comme des corrélats, c'est-à-dire correspondent à quelque chose de sémantique. Et là, il y a toujours le problème, enfin, il y a un problème crucial pour ces disciplines, celui du passage du qualitatif au quantitatif, et de plus exactement du quantitatif au qualitatif et retour, de la même façon que du local, la lexicométrie, au global, l'analyse textuelle. En tout cas, les premiers résultats semblent confirmer la nécessité de reconsidérer dans tout travail sur corpus la variable de genre et me semble ouvrir une réflexion sur un certain nombre de relations problématiques. C'est-à-dire, d'une part, malgré les affirmations, disons, longtemps répétées des théories formalistes sur l'autonomie de la syntaxe, il est évident que là, on se trouve devant des corrélations syntaxe-sémantiques extrêmement fortes. Si l'on considère que la catégorie du genre, dans la mesure où les structures textuelles sont essentiellement sémantiques, la catégorie de genre est essentiellement une catégorisation sémantique. Du moins, il y a évidemment des éléments d'expression dans le genre, mais c'est au niveau méso et non pas au niveau macro. Ou du moins, je veux dire, rien ne différenciera à l'œil nu le chapitre de roman du chapitre de traité. Simplement des étendues. Bon, il y a des cas où l'expression est beaucoup plus discriminante, le sonnet, des choses comme ça. Mais sinon, le texte au kilomètre, ça existe tout de même. Par ailleurs, alors que les variables utilisées sont locales, évidemment, au palier du mot ou de la phrase pour la ponctuation, elles confirment la classification initiale qui était globale. C'est-à-dire que c'est une façon de confirmer la détermination du global sur le local, y compris dans des domaines que l'on croyait imperméables à toute sémantique, puisque par définition, le morphosyntaxique est pour nous l'essence même du formel. Hein. Du moins, le terme formel s'emploie en linguistique pour désigner précisément ça, ce qui échappe à la sémantique qu'on met dans le lexique, bizarrement, parce qu'il y a toujours cette séparation entre les catégorématiques et les syncatégorématiques, et on a toujours dit que tout ça n'avait pas de sens parce que ça n'avait pas de référence. Hein. Recanati l'a dit et répété, c'est les artrones, c'est les articulations du discours, c'est dans la tradition logique. Évidemment, tout ce qui est syntaxique ne participe pas au sens, elle l'organise simplement. Le sens, lui, il est du côté du lexique, de la référence et finalement de la vérité. Ensuite, sur la relation entre les plans du langage, signifiant et signifié, il y a aussi à réfléchir parce que les genres sont vraisemblablement le moyen de la sémiosis textuelle. C'est-à-dire, on parle toujours des questions de sens au niveau de la signification lexicale, mais la question des rapports entre les deux plans d'un texte est une toute autre affaire et vraisemblablement, elle est configurée, déterminée pour une grande part par les genres. Bien entendu, les styles arrivent comme normes supplémentaires, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire une linguistique de la langue sans faire en même temps une linguistique des normes. C'est-à-dire, si on considère que l'objet empirique de la linguistique, c'est le texte, les textes, savoir qu'un texte est écrit dans une langue ne suffit pas à le caractériser, bien entendu, et on ne peut même pas percevoir sa structure linguistique si on ne l'aperçoit pas à travers le genre dans lequel il est écrit. C'est ça l'idée, le genre et le discours, bien entendu. Et enfin, et ça sera sur ces points de suspension-là que je m'arrêterai, il y a cette vieille opposition qui a été très utilisée en stylistique, disons une stylistique de tradition humboldtienne entre la forme extérieure et la forme intérieure. Là, nous n'aurions travaillé que sur la forme extérieure. Tout à fait d'accord. Mais l'intériorité de la forme intérieure mérite d'être questionné. Est-ce que ce qu'on appelle forme intérieure, qui reconduit souvent, disons, de bonnes vieilles théories sur l'ineffable, qui font le fond de notre esthétique post-romantique, ne sont pas simplement des régularités. La forme intérieure, pardon, ne serait pas constituée de régularités de la forme extérieure que nous étions jusqu'à présent incapables de discerner et de qualifier. Et je crois que de ce point de vue-là, comment dire, rendre la littérature à sa lettre étymologique, ne serait pas une mauvaise chose. Du moins, ça n'empêche pas de, bien entendu, de développer un discours sur, sur l'auteur, l'intention, l'effabilité ou l'ineffabilité. Mais il y a bien des, je veux dire, le fait qu'on soit capable d'identifier, par exemple, très vite, tel ou tel auteur à, simplement à partir d'un syntagme, bon, sans qu'on soit du tout capable de dire pourquoi. Bon, mais en fait, on pourra peut-être bientôt dire pourquoi. Je veux dire par là que si on arrive à trouver des régularités au niveau des œuvres, des régularités fines, à ce moment-là, bon, alors ça dépoétise peut-être la poésie au sens où ça la déromantise, mais ce n'est pas si grave si on considère que c'est un art du langage et qu'en tant qu'art, il se situe dans un matériau entièrement, entièrement linguistique. Alors voilà les questions qui s'ouvrent à nous. Pour beaucoup, on n'a pas de réponse, dans la mesure où, d'une part, c'est un travail qui commence, et ensuite, je crois que c'est des questions qui sont assez partagées, et tant mieux.
Merci François Rastier et Denise Malrieux. Alors des questions justement, il y en a peut-être qui vous seront posées, ou des remarques, des observations diverses. Oui. Alors, on n'a toujours pas de micro, mais c'est pas grave, on va s'en passer.
Si, si, il est là.
Il est là.
Merci. Je voulais revenir sur la question du local et du global, parce qu'il me semble qu'il y a au moins deux niveaux de global dans ce que vous avez dit. L'un qui est celui du texte, éventuellement porteur d'un genre, et l'autre celui du genre comme ensemble de textes. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait le même global là-dedans.
Oui.
J'ai l'impression que bon, la première partie de votre analyse consistait bon, à partir du global implicitement et à essayer de déterminer des ensembles de caractères locaux. De traits locaux caractéristiques. Et il y a une deuxième partie dont je ne suis pas sûre d'avoir compris toutes les modalités, qui est cette reclassification automatique à partir des caractères locaux. Alors ma première question, c'est très très concret, c'est est-ce que vous pouviez revenir sur le procédé? Parce que je ne suis pas tout à fait sûre si par exemple vous prenez tous les caractères en compte ou s'il y a des pondérations sur ces caractères a priori. Et la deuxième partie de la question, c'est à propos des résultats même, parce que j'avais l'impression que ce que vous retrouviez, c'était surtout l'auteur, qu'on a retrouvé par d'autres analyses. Bon, d'une certaine façon, le niveau global en tant que texte, pour certains d'entre eux, mais pas tellement le genre, pas ce niveau global de genre, puisqu'il y a plein d'endroits où il y a apparemment des textes en tant que textes d'un autre genre qui sont retrouvés globalement par les mêmes caractéristiques. Et à ce propos, j'aurais voulu savoir si ce n'était pas intéressant de regarder spécifiquement les textes. C'est un peu compliqué à dire. Les
Oui.
textes qui, en tant que genre spontané, n'appartiennent pas au genre dans la classification automatique.
D'accord.
Par exemple, les 2% de textes non juridiques dans le juridique ou des choses comme ça.
Alors, tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, en haut de la classification, on a un global qui est le global du genre et qui s'applique à des unités qui sont des textes, et que dans ma conclusion, je ne distinguais pas ces deux niveaux de globalité. Mais, par exemple, j'ai fait des comparaisons sur Verlaine et Rimbaud, sur des œuvres singulières, pour justement pour faire de l'analyse là univariée, pour voir les différences de technique. Et en fait, c'est qu'on a, on hésite sur la globalité, c'est-à-dire venant de la linguistique, on pense que le global c'est le texte, alors que c'est l'unité. Alors c'est vrai que cette unité est elle-même peut-être plus déterminante à l'égard de ses parties, du moins on voudrait le croire en littérature, que ne l'est le genre à l'égard de l'œuvre singulière comme une de ses parties. Ça, cette question est ouverte. Mais là, on sait, dans la mesure où on voulait montrer l'incidence du genre sur la caractérisation du texte, on a pris la conception la plus globale du global. En revanche, ce qu'on veut faire maintenant, c'est justement de descendre au niveau des textes, y compris pour faire du travail carrément monographique ou même voir en quoi les parties elles-mêmes, les chapitres d'un même ouvrage, peuvent être des micro-globalités. Vous voyez, par exemple, le chapitre 4 du Père Goriot, quelle est sa singularité par rapport aux autres ? Elle est massive, enfin, du moins d'après les résultats d'Evelyne Bourion. Donc l'idée n'est pas celle de recréer une ontologie où il y aurait une énade qui serait l'intertexte, comme c'est le cas actuellement, hein, on vous dit l'intertexte I majuscule, c'est de dire mais non, l'intertexte I majuscule, il fonctionne selon des philomes qui sont des discours, des genres, etc. Ce n'est pas le I majuscule. Bon, et le texte, ce n'est pas non plus le T majuscule. C'est-à-dire, ce n'est pas une monade qui serait le correspondant de cette énade de l'intertexte, c'est quelque chose qui lui-même est articulé, et c'est pour ça qu'on se pose le problème d'une codification TEI, disons, au niveau 2, pour arriver à distinguer les parties, à les contraster, etc. Alors qu'évidemment, dans Frantex, vous avez ce qu'on appelle texte, une unité de 100 000 mots. Alors, si 100 000 mots, ça tombe entre deux chapitres, peu importe, vous voyez. Donc là, on a besoin d'un travail philologique, disons, minimal, pour pouvoir avancer. Mais, disons, avec de l'entêtement, je pense qu'on va pouvoir arriver et se reposer d'une façon plus précise, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ce n'est pas les mêmes variables qui différencient les niveaux de globalité. C'est-à-dire que les variables qui sont actives au niveau de la différence entre discours ne sont pas les mêmes que celles qui sont actives au niveau de la différence entre genres au sein du discours littéraire, et on va même trouver des différences d'activité dans une comparaison de type Verlaine-Rimbaud en poésie. Et là, je crois que ça permettrait, disons, en contrastant les types de variables actives, d'avoir des résultats à la fois moins massifs et plus immédiatement lisibles. Et puis, bon, il y a peut-être, comme l'a dit Jacobson, une poésie de la grammaire, il y a peut-être, disons, chez certains auteurs, des configurations de variables actives qui sont tout à fait identifiantes, pourquoi pas.
Les accords entre genre et sous-genre sont nettement plus importants que sur auteur.
C'est ce qu'on voulait en fait montrer dans cette comparaison du bas de la classification. C'est-à-dire que quand la machine se trompe, c'est sur l'auteur, mais pas sur le genre, grosso modo. Et ça correspond à d'autres aux résultats auxquels faisait allusion déjà ancienne. Auquel faisait allusion Brunet ce matin, d'un travail déjà ancien avec Müller.
D'autres questions, d'autres remarques ? On va peut-être passer à la communication suivante.